De retour aux amateurs de sport, dernier bloc de l'émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Et malgré que c'est une journée de congé au Tour de France, avec grand plaisir, on va aller parler avec notre collègue Louis Bertrand. Salut Louis!
Salut Derek!
Écoute, c'est une journée de congé au Tour de France, puis je pense que c'est mieux comme ça. Hein? Après la fête nationale, puis après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde hier, c'est peut-être mieux que tout le monde se repose aujourd'hui.
Ouais, on peut le dire comme ça, mais tu comprends bien qu'ils sont dans leur bulle, hein. C'est entendu que les coureurs, l'étape à Roubaix hier a pris fin à temps, les organisations. Tu parles de Tour de France et la Coupe du Monde de soccer. Il est entendu qu'une majorité de coureurs, sinon tous, se sont trouvés devant le petit écran après la victoire de John Degenkolb à Roubaix. Mais bon, tu comprends bien que c'est pas en raison de la Coupe du Monde puis du 14 juillet que la première journée de repos. C'est toujours ça, le deuxième lundi de course, c'est toujours une journée de repos et ce sera repos lundi de la semaine prochaine aussi.
Louis, moi, je parlais plus pour les gens qui travaillent, les gens du comité,
ah, oui.
les gens, les partisans, bon, les gens qui allongent les routes. Je parlais plus pour eux autres, je pense, se reposer.
Bon point, Derek. Là-dessus, tu as parfaitement raison.
Hey, écoute, dans une journée de congé là, pour le Tour de France, les gars, ils font quoi? Est-ce qu'on continue de faire le vélo? Comment qu'on fait pour se garder lousse, comme on dit, pour l'acide lactique? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les coureurs font lors d'une journée de congé?
Ben, tu as été athlète professionnel toi-même, alors tu sais qu'on n'aime pas arrêter complètement dans les jours où on n'est pas impliqué dans la compétition. Ils redoutent d'éteindre le moteur, de crainte d'avoir de la difficulté à le repartir demain matin pour la première étape dans les Alpes. Alors, ceux qui ne sont pas blessés vont aller tourner les jambes ensemble, en équipe, suivis par une voiture pour être en toute sécurité sur la route, puisque les routes ne sont pas fermées. Autour d'Annecy, le lac d'Annecy, superbe site pour profiter d'une journée de repos. Alors, ils vont aller rouler 90 minutes, 2 heures, sans appuyer trop fort sur les pédales, chasser les toxines. Et comme je le souligne, ne pas éteindre le moteur et ils redoutent la reprise le lendemain. Ceux qui sont blessés, ceux qui sont mal, n'iront carrément pas rouler en espérant que ça, disons, ça active la guérison, ça l'accélère et puis espérons que demain matin, ben, ça va bien aller. Alors, ça dépend de l'état des uns et des autres, mais de façon générale, Derek, ils vont aller rouler au moins un peu.
Ils vont rouler un peu. Et là, comment on fait pour se préparer? Tous les phases du Tour de France, évidemment, ils ont des particularités, ils ont des exigences, mais quand on embarque dans les montagnes, là, quand on arrive vraiment où on doit... ça favorise évidemment plus de force, les jambes, ceux qui ont les jambes plus fortes, mais quand on arrive en montagne, c'est quoi ça demande la veille de cette étape-là?
Ben, ta question est pertinente parce que la transition de la plaine à la montagne est souvent indigeste. Pour ceux qui font un peu de vélo, c'est un peu comme rouler pendant 9 jours sur le gros plateau à l'avant et basculer sur le petit plateau. Utiliser le dérailleur et mettre le petit plateau en haute montagne. Les grimpeurs attendent ce moment-là. Nairo Quintana, qui est un excellent grimpeur, a réussi à passer à travers l'étape des pavés hier, bien aidé par une équipe espagnole Movistar vraiment puissante. Il y a des coureurs qui trépignent, qui attendent l'entrée dans les Alpes. Il y a d'autres gars, des gars de la pleine, les spécialistes des pavés, ben eux, ils vont se regrouper ensemble demain, ils vont rouler loin à l'arrière, ils n'ont rien à espérer de la montagne, ils veulent entrer dans les délais parce que tu as une certaine période de temps après l'arrivée du vainqueur durant laquelle tu dois entrer pour ne pas être hors délai. Mais, tu sais, se préparer, c'est très psychologique et de toute façon, écoute, ce sont des gars qui font entre 30 et 45 000 kilomètres par année sur le vélo, qui courent les grands tours, qui courent les courses de 10 jours où tu as aussi un amalgame de plaine et de haute montagne. Alors, la transition n'est jamais vraiment facile, mais ces gars-là connaissent le métier par cœur, savent à quoi s'attendre. Et puis, ben, comme je te dis, c'est certain qu'autour de Chris Froome, de toute façon, lui le premier, on attend la montagne. Les grimpeurs sont heureux là, que l'on entre dans la deuxième phase de ce Tour de France 2018.
Il y en a beaucoup qui disent, peut-être ceux qui sont les moins bons, Chris Froome, tu le mentionnes, la montagne, il attend ça, mais Louis, il y en a plusieurs qui, eux autres, leur objectif, lorsqu'ils arrivent en montagne, c'est ne pas gagner du temps, mais c'est surtout de pas perdre des secondes. C'est ça, la stratégie est différente selon ta force.
Ben, regarde, là, pour jouer avec ta question, je te dirais ceci. Froome, dans ses 4 victoires au Tour de France, est apparu imprenable, souverain en haute montagne. On peut vouloir l'attaquer. Nairo Quintana, on lui a reproché, sur le Tour 2015 en particulier, de ne pas attaquer Chris Froome. Mais Quintana de répondre, écoutez, attaquez Chris Froome, faites-le vous. Essayez donc, si vous pensez que vous pouvez prendre du temps à Froome en haute montagne. Alors, regarde les positions, là, les places au classement général. Le mieux placé à l'heure actuelle, c'est un autre Sky et non pas Chris Froome. C'est le Britannique Geraint Thomas, d'accord, qui est deuxième. Lui, il est à 43 secondes de Greg Van Avermaet, le maillot jaune, qui va perdre le maillot jaune probablement dès demain en haute montagne. Greg Van Avermaet, c'est un homme des classiques. C'est un vainqueur de Paris-Roubaix. C'est le gars qui finit deuxième hier à Roubaix, Greg Van Avermaet, le vainqueur du Grand Prix de Montréal 2016. Lui, il va perdre le jaune. Si c'est pas demain, ce sera le surlendemain. Alors, on regarde autour de Geraint Thomas. T'as Bob Jungels, qui est à 7 secondes, qui est pas un pur grimpeur, le champion du Luxembourg sur route, mais qui grimpe. Valverde, Fuglsang, bon, Froome, Adam Yates, Mikel Landa, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Romain Bardet, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, ce sont tous des grimpeurs, mais tout le monde va regarder ce que Froome peut faire. Ils vont peut-être l'attaquer, j'espère. J'espère que Tom Dumoulin, qui s'est montré très fort sur les pavés, j'espère que Romain Bardet va attaquer. Pourquoi pas? Peut-être dans une descente même, Bardet. Le dernier col demain, le sommet est à 14 km de l'arrivée. On va plonger sur le Grand Born. Hein? Romain Bardet et Vincenzo Nibali sont deux des meilleurs descendeurs du peloton. Pourquoi pas l'un et l'autre ensemble faire cause commune ou l'un des deux en plongeant vers le Grand Born? Alors, il y a toutes sortes de scénarios envisageables, Derek, mais il est certain que l'homme à battre, l'épouvant taille. À compter de demain, c'est Chris Froome, le vainqueur du Tour d'Italie, le vainqueur du Tour d'Espagne l'an passé, le vainqueur du Tour de France l'an passé. Tu sais que Froome essaie un quadruplé, remporter 4 grands tours de suite.
Hey, écoute, puis ces chutes, est-ce que tu as été inquiété, toi, par ces chutes?
Non.
Pas du tout, hein?
Non, les deux fois, il est tombé dans l'herbe. En fait, la première fois dans l'herbe, la deuxième fois sur la terre battue. Alors, je pense pas que Froome soit blessé. J'aimerais pouvoir en dire autant de Mikel Landa, l'un des trois leaders chez Movistar. Il est entré avec une épaule, un maillot déchiré hier à l'épaule à Roubaix. Je regarde les autres rapidement. Fuglsang aussi a chuté. Valverde, non. Jungels, non plus. Dumoulin, ça va bien. Bardet, hier, arrêté 6 ou 7 fois, mais surtout en raison d'ennuis mécaniques, dont 3 crevaisons. Quintana, je me rappelle pas, je pense pas qu'il ait chuté non plus. Rigoberto Urán a chuté hier, il a perdu du temps, il était à 2 minutes 10 au classement général, à 2 minutes 10 de Geraint Thomas, le gars qui a fait 2e du Tour de France l'an passé. Hier, une mauvaise journée pour lui. Et puis, ben écoute, Derek, avant qu'on se quitte, on a perdu Richie Porte, n'est-ce pas, le 5e du Tour de France 2016. Énorme perte, le vainqueur du Tour de Suisse, qui espérait un podium à Paris, voire la plus haute marche, l'ancien copain et coéquipier de Chris Froome. C'est un gros morceau qu'on perd là et ça fait une équipe de moins pour contrôler la course en haute montagne, la BMC. En tout cas, navrant de voir Richie Porte partir à la 9e étape, comme l'an dernier, sur chute, fracture de la clavicule cette année au 10e kilomètre de l'étape d'hier vers Roubaix. Malheureusement, grosse perte pour le Tour de France, pour le suspense, mais il y a plusieurs gars qui peuvent au moins essayer de chatouiller Froome en montagne. Il en reste, je les ai nommés tout à l'heure. T'as une dizaine de gars qui peuvent challenger les Geraint Thomas et Chris Froome de Sky.
Ils sont à une dizaine là, à se tenir à une trentaine de secondes. Alors, écoute, Louis Bertrand, on aura la chance de se parler demain alors qu'on va entamer justement la première étape de trois dans les montagnes. Et ce sera un plaisir de te retrouver demain. Merci d'avoir pris le temps ce soir pour nous.
Plaisir partagé, Derek. On se parle demain. À bientôt.
Salut, Louis.
Ciao.
Alors, c'est tout pour les amateurs de sport du 16 juillet. Merci beaucoup à Benoît Leroux à la réalisation. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Et je vous invite de rester les nôtres, car après la pause, c'est Jérémy Filosa qui est là. Il est en place pour Bonsoir les sportifs. Vous avez passé une belle soirée avec lui jusqu'à minuit ce soir. Alors, Jérémy Filosa, au retour pour Bonsoir les sportifs. On se retrouve demain, nous autres, pour un autre amateur de sport. Et qu'on est 18h30. Merci. Bye.